Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Affen & Co, la 72e collégiale de l'AFEN. Eh bien, aujourd'hui, on a la chance de continuer notre tour de l'écosystème français de la formation. On va pouvoir se poser toutes les questions qu'on a rêvé de se poser sur la Fédération de la formation professionnelle. Et on a la chance d'avoir Olivier Poncelet, le délégué général, qui va répondre à toutes les questions que Manal va pouvoir lui poser. Manal, bonsoir.
Bonsoir, merci Stéphane. Merci à Olivier d'être là avec nous ce soir et de répondre à toutes nos questions, on en a plein. Et pour commencer, c'est quoi la FFFP ? Dans votre site internet, ça date de 1991, si j'ai bien retenu. Donc ça a quand même une petite histoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Tout à fait. Eh bien, d'abord, bonsoir et merci de m'accueillir et de donner la parole à notre fédération. Donc, effectivement, la FFP a été créée au début des années 90, fondée par Jean Weymar, autour de trois convictions. La première conviction, c'est la nécessité de créer en France un secteur de la formation de qualité porté par des professionnels engagés dans leur secteur. Donc, c'est la raison pour laquelle la FFP a contribué aussi à la création, et on pourra en reparler, de démarches qualité. La deuxième conviction, c'est la nécessité d'un secteur qui soit en capacité d'évoluer en permanence, de se remettre en question au fur et à mesure de l'évolution des attentes et des besoins. Et on sait bien qu'aujourd'hui, l'évolution est particulièrement forte. Et puis, la troisième conviction forte, c'est que l'enjeu des compétences, l'enjeu du capital humain, est au cœur de toutes les transformations sociale, sociétale et économique de notre pays et qu'il faut bien sûr avoir une réponse à la hauteur de ces enjeux.
Alors aujourd'hui, la FFP, ça représente quoi ?
Aujourd'hui, la FFP, c'est 900 adhérents. Donc par adhérent, on entend des structures qui peuvent être des entreprises ou des associations qui forment aujourd'hui entre un tiers et la moitié des personnes formées chaque année en France. Donc c'est-à-dire D'accord. qu'en France, vous avez à peu près entre 5 et 10 millions de personnes qui sont formées chaque année par les réseaux de la FFP. Donc, ça peut être aussi bien des jeunes. Vous avez 100 000 jeunes qui sont formés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage par les réseaux adhérents de la FFP, aussi bien des demandeurs d'emploi. Donc, les deux tiers des adhérents de la FFP accompagnent les demandeurs d'emploi dans leur insertion professionnelle. Et puis, bien sûr, les salariés en formation continue dans une logique d'upskilling ou de reconversion.
Quand tu dis les organismes, est-ce que ce sont les organismes de formation ou est-ce que ce sont des entreprises qui ne sont pas forcément organismes de formation ?
Alors, c'est une question importante pour nous puisque l'année dernière, la fédération a fait le choix de s'élargir.
D'accord.
Ce qui a présidé à cet élargissement, c'est la conviction que la formation est un moyen et que l'enjeu, c'est la finalité qui est la compétence professionnelle. Donc, la question que s'est posée notre fédération, c'est comment porter la création, la constitution d'une filière en France des acteurs du développement de la compétence professionnelle. Et à ce titre, il est bien évident qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises de formation parmi nous, mais nous accueillons aussi depuis l'année dernière, nous avons fait évoluer nos statuts en ce sens, des acteurs qui contribuent au développement de la compétence. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois en amont et en aval. En amont, tous les acteurs qui contribuent à l'accompagnement, à l'insertion, à l'orientation. Pendant la formation, toutes les solutions pédagogiques et notamment innovantes qui se produisent en ce moment et qui apparaissent sur le secteur, qui accompagnent les formateurs dans une offre de formation adaptée. Et puis en aval, les certificateurs qui reconnaissent la compétence professionnelle. Donc ce mouvement, il a commencé l'année dernière. Il est en train de prendre, on pourra en parler si vous le souhaitez, constitue vraiment une feuille de route importante pour notre fédération de constituer cette filière d'excellence des acteurs de la compétence en France.
D'accord. Donc, vous parlez des acteurs de compétence. On parle peut-être plus des organismes de formation. Comment ça se passe ?
Alors, déjà, nous, on n'aime pas le terme organisme de formation.
D'accord.
Ça fait un peu microbe. Notre vision du secteur, c'est que nous sommes des entreprises, au sens qui peut être aussi associatif, mais nous sommes des entrepreneurs, des dirigeants qui ont une vision du secteur qui porte davantage que la simple réponse à un besoin, qui porte aussi une logique de co-construction avec la demande, de remise en question permanente par rapport aux évolutions des attentes, et qu'à ce titre, les acteurs du développement de la compétence sont bien plus que des organismes ou des sous-traitants. Au contraire, ce sont des acteurs majeurs du développement de la compétence en France.
Est-ce que finalement cela ne témoigne pas-t-il de finalement d'une vraie évolution de l'écosystème de la formation ou comme vous dites de la compétence en France?
Bien sûr, ce qu'on constate aujourd'hui dans le secteur, c'est une diversité d'acteurs qui chacun ont leur valeur ajoutée dans une chaîne de valeur. D'accord. Et c'est cette chaîne de valeur que la FFP accompagne comme une plateforme à la fois de partenariat, d'offres de services, de mise en relation, de manière à pouvoir une réponse, à pouvoir développer une réponse qui soit à la hauteur des enjeux de demande en besoin en compétences qui sont énormes dans notre pays.
Alors pourquoi un organisme, un acteur viendrait adhérer à la FFP? Qu'est-ce qu'il y gagne finalement?
Alors ça pose la question des services d'une organisation comme la nôtre. Donc le premier service, c'est des informations privilégiées et du conseil sur tous les aspects quotidiens de la vie d'un dirigeant ou d'une équipe dirigeante d'une entreprise du secteur. Donc que ce soit du droit social, de la commande publique, du droit fiscal.
Le deuxième point, c'est un acte de la veille. Donc de la veille.
De la veille, mais plus que ça, si vous voulez. Vous avez une capacité de contacter directement une équipe permanente au sein de la FFP avec un service de réponse directe, des événements dédiés, des outils dédiés. Le deuxième sujet, c'est un accompagnement sur les évolutions législatives et réglementaires qui sont en cours et qui sont dans notre secteur, parfois malheureusement d'ailleurs, très souvent régulières, nombreuses et importantes. Et donc là, on a organisé un grand tour de France de la réforme en 2018 et en 2019, donc partout en France, et on a accompagné plus de 2000 acteurs sur ces sujets-là. Aujourd'hui, en termes de déploiement de la réforme, il y a bien sûr, on en reparlera, l'appli CPF, l'apprentissage, et puis les sujets de qualité et de certification professionnelle. Et la FFP lance un certif tour partout en région, où nous accompagnerons les adhérents à la fois sur Calliope et sur la certification professionnelle. Et puis, troisième élément important dans les services, c'est un accompagnement sur des évolutions qui sont plus structurelles des acteurs, et je pense notamment à la transformation digitale qui est en cours. Donc la FFP porte un vaste projet d'accompagnement du secteur avec Opcalia qui comporte des études, un diagnostic numérique gratuit, des aides financières, et nous avons réalisé avec Faber Novel une étude qui réinterroge et donne des outils pratiques auprès des dirigeants pour réfléchir à son modèle économique et à l'évolution de son modèle économique et du sujet formation par rapport à la transformation digitale.
Très bien. Et alors justement, combien ça coûte si on veut adhérer? Comme ça, on règle le problème d'argent de suite.
Voilà. La fédération, c'est 500 euros en fixe et c'est 0,14% du chiffre d'affaires.
D'accord.
Donc, la structuration de la FFP, c'est d'abord et avant tout des élus bénévoles. Qui la structure, c'est-à-dire que ce sont des élus bénévoles qui président les commissions, qui sont un peu les poumons de la fédération au sein desquels vous pouvez venir échanger sur les sujets de qualité, d'innovation, mais aussi les sujets plus sectoriels, les langues, les questions de formation dans le sanitaire et social. On est en train de créer une commission sécurité. C'est aussi des groupes régionaux, donc la FFP est très présente à travers des groupes régionaux qui sont très dynamiques et portés là aussi par des élus bénévoles qui sont très au fait des problématiques de nos adhérents. C'est une équipe de permanents dont je parlais, et puis c'est des événements dédiés ou des outils spécifiques. Je pense par exemple au CPFFP, qui est une certification professionnelle. Les adhérents ont la possibilité de faire habiliter un référentiel de certification pour délivrer des certificats reconnus qui permettent ensuite d'avoir une offre certifiante et d'accéder à un certain nombre de financements. Et bien sûr, de donner aux bénéficiaires la reconnaissance de leurs compétences.
Autrement dit, il y a une rumeur quand même qui est importante, qui court. Est-ce que finalement, la FFP ne sont pas les gros acteurs et on dégage un peu les petits? C'est un club de gros, quoi.
Alors, il y a deux réponses. Premièrement, la cartographie aujourd'hui de la FFP, elle est totalement représentative du secteur. C'est-à-dire qu'il y a peu d'entreprises de formation de taille importante et il y a surtout, majoritairement à la FFP, des entreprises de petite taille. Donc ça, c'est un fait, et c'est la cartographie. Et
y compris des indépendants?
Non, pas les indépendants, par contre. Il faut avoir au moins un salarié. La fédération est totalement représentative du secteur sur les différentes typologies d'acteurs. Et le deuxième point, qui est aussi une question sous-jacente que tu poses, qui est de dire est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut nettoyer le marché, ce qu'on entend souvent.
Oui, c'est ça.
Et donc, alors ça, j'avoue avoir du mal à comprendre cette problématique. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'un acteur est capable de délivrer un service de qualité aux bénéficiaires, à l'entreprise ou à la personne. Alors, il faudrait me démontrer que c'est une question de taille. On connaît tous des acteurs de petite taille qui font très bien leur job, et ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble des acteurs. Donc, la question, elle est pas la question, c'est pas la taille. La question, c'est comment, encore une fois, on constitue une filière qui porte différents acteurs avec leur diversité de valeur ajoutée, et comment on les fait travailler ensemble. Comment une grande école qui a une marque reconnue travaille en partenariat avec une entreprise peut-être de plus petite taille en région, mais qui a une forte connaissance du tissu local et une expertise, une ingénierie pédagogique forte. Comment ces gens-là travaillent aussi avec des grands acteurs de la technologie qui arrivent sur le marché, qui connaissent parfaitement l'utilisation des data ou du marketing par le digital et qui peuvent permettre aussi d'attirer d'autres personnes à la formation.
Si la taille n'est pas importante, comme vous le dites, comment vous voyez l'avenir de ces organismes de formation dans cet écosystème qui est en train d'évoluer de manière rapide?
Pour nous, et c'est ce qu'on développe dans l'étude qu'on a produite avec Faber Novel et qu'on a présentée au Skillfest l'année dernière, on pourra en reparler à un événement qu'on a mené en octobre. Le principal enjeu, c'est la capacité de travailler en partenariat et en écosystème. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous soyez petit ou que vous soyez gros, encore une fois, chacun a sa valeur ajoutée et ce qui est important, on le pense, c'est que dans les transformations actuelles du secteur, qu'elles soient de nature légale ou réglementaire ou qu'elles soient de nature technologique ou d'innovation, l'enjeu, c'est comment on travaille ensemble et on est en capacité de proposer une offre adaptée.
Et du coup, si vous venez d'énumérer deux types d'enjeux, innovation technologique et régulation, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur ces deux-là? C'est quoi qu'il faut maîtriser aujourd'hui?
Peut-être que vous démarrez par le réglementaire. Qu'est-ce que, avec la réforme, qu'est-ce que ça change profondément pour les organismes de formation?
Alors, c'est une réforme très importante hein, qui a connu le secteur, qui en connaît encore une fois, en a connu de nombreuses, mais celle-ci est vraiment systémique. Le constat de base qu'avait fait la FFP avant la réforme et les messages qu'elle a portés, c'est elle part du constat en France que 36% des adultes se forment chaque année. En Allemagne, c'est 53%. Et dans les pays du Nord, c'est plus de 60%. Donc, si on veut avoir un système français de développement des compétences qui soit à la hauteur des enjeux, il faut qu'on fasse un passage à un changement d'échelle qui est extrêmement important. Pour donner juste un chiffre, si on veut coller au chiffre de l'Allemagne, il faudrait qu'on forme chaque année plus de 5 millions de personnes en plus. Donc, le changement, pour nous, il était nécessairement systémique. Donc, la réforme apporte un certain nombre de réponses. La première réponse, c'est le développement de l'offre d'apprentissage, qui est quand même une excellente nouvelle pour les jeunes et pour leurs familles et pour les entreprises en France. Le deuxième axe qui nous semble intéressant, c'est l'évolution du compte personnel de formation, notamment dans l'idée que les Français ont chacun un accès direct à la formation et aux acteurs de la compétence. Et puis, le troisième sujet qui nous semble important et dont il faudra continuer à tirer les ficelles, c'est tout simplement l'évolution de la définition de l'action de formation et l'oxygénation du secteur qui a été donnée par cette évolution-là, qui nous permet quand même d'envisager des formules beaucoup plus innovantes, des parcours multimodaux avec de la formation en situation de travail et qui permettent de coller davantage aux enjeux et aux demandes des entreprises et des personnes.
La FFP participe à ces groupes de réflexion pour nourrir les décisions gouvernementales?
Bien sûr, on est en contact très régulier avec l'ensemble des interlocuteurs publics, puisque les éléments que je vous évoque, ce sont des éléments qui nécessitent ensuite de passer à l'opérationnel et à la pratique. C'est-à-dire que des bonnes idées dans une loi ne veulent pas dire qu'elles sont une bonne idée sur le terrain. Et donc là, il y a un enjeu extrêmement important et continu à l'être de mise en œuvre pratique. Et on pouvait évoquer les différents sujets. On peut par exemple évoquer la question de l'appli CPF, sur laquelle il y a encore du travail à faire pour avancer vers une meilleure lisibilité des usagers, vers une meilleure neutralité du moteur de recherche entre les offres de formation. Donc là-dessus, c'est un travail quotidien avec l'ensemble des interlocuteurs, ministère du Travail, Caisse des dépôts, auprès régionaux, Pôle emploi. Et ça, c'est le rôle de notre fédération, de faire remonter, bien sûr, les difficultés que connaissent les acteurs de notre secteur, parce qu'ils sont en prise directe avec les bénéficiaires.
Bien sûr.
Vas-y, Stéphane.
Manal, je t'en prie.
Pour rester un peu dans la continuité d'évolution de la régulation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution majeure en termes de réforme de certification qui est en train de se passer là? Quelles sont les évolutions? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a des choses à nous apprendre là-dessus?
Alors, il y a deux choses. Mmh. Il y a la certification au sens démarche qualité des acteurs, des entreprises de formation, et la certification professionnelle au sens de titre, diplôme, certificat délivré aux personnes. Donc, si je distingue les deux sujets, sur les démarches qualité des acteurs de notre secteur, la FFP, encore une fois, a promu l'ensemble des démarches qualité de professionnalisation du secteur, c'est dans notre ADN, et on continue à le porter. Il y a un label désormais qui s'appelle Calliope, que l'ensemble des acteurs dont l'ensemble des acteurs qui souhaitent pouvoir voir leur formation financée par des fonds publics ou paritaires doivent disposer. Ça nous semble aller dans le bon sens. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi que ce système nous permette d'avancer vers une logique de confiance. Et je pense à un sujet précis qui est le nombre de contrôles que subissent parfois les acteurs de notre secteur, contrairement à ce qui peut être répandu comme image. On a des entreprises de formation adhérentes qui sont contrôlées 3-4 fois dans l'année par des acteurs différents. Donc, il faut que ce système qui est nécessaire pour garantir le professionnalisme et le sérieux des acteurs permette, en contrepartie, d'entrer dans une logique de confiance pour permettre surtout aux acteurs de travailler sur les vrais enjeux et d'investir leur temps, leur énergie, leur argent vers l'innovation, l'investissement sur les vrais enjeux. Ça, c'est le premier point.
Oui, déjà, enfin, si je peux me permettre sur ce point-là, Calliope, déjà, il est un peu plus poussé par rapport au Datadoc qui était juste déclaratif. Est-ce que ce n'est pas assez, finalement, quand vous dites que pour la confiance du marché. Oui.
Sachant que la FFP avait promu l'OPQF, par exemple, donc avait déjà un système de labellisation de qualité. Est-ce que finalement, s'il n'y a pas de concurrence, comment on organise ça?
Non, c'est le système est en train de s'établir, c'est-à-dire que c'est France Compétences qui identifie, qui a publié cette norme, et surtout l'ensemble des certificateurs doivent être accrédités par le COFRAC. Donc, on a un système qui est en train de se structurer, hein, mais qui va permettre à l'ensemble des acteurs, et notamment des certificateurs, vous citez le PQF, mais aussi les autres, de continuer, bien sûr, à œuvrer pour la professionnalisation du secteur. Après, l'enjeu, encore une fois, il y a cet enjeu de professionnalisme, mais on souhaite aussi aller plus loin. L'enjeu réel des prochains mois, des prochaines années, c'est comment aussi le secteur et chacun des acteurs se dote des outils de mesure, d'évaluation des impacts de son offre et de ses services. Mmh. Et là, on pense qu'il faut vraiment qu'on continue à avancer sur ce sujet-là, c'est-à-dire quel est l'impact, le retour sur investissement des services, de la formation qui sont proposés par nos acteurs.
Et là, vous proposez quel type d'indicateur?
Là, c'est une réflexion qu'il faut qu'on continue à mener.
Parce qu'en fait, il existe deux tendances. Il existe une tendance canal historique qui reprend la production de l'offre, et donc on cherche un retour sur investissement de l'offre. Soit on se tourne vers la demande, donc les apprenants, ou les responsables de formation par exemple, mais ou les apprenants, pour se dire dans ces cas, on trouve des indicateurs du style taux d'engagement, etc. Et tout est ouvert, mais il y a deux philosophies.
La vocation d'une organisation comme la nôtre, c'est de susciter les réflexions, les débats. Ensuite, chacun des acteurs peut s'approprier les outils. Nous, on n'a pas vocation à être prescripteur des outils, d'autant qu'on sait bien que les outils de mesure dépendent aussi des situations. Vous n'évaluez pas le retour sur impact d'une formation d'une équipe de commerciaux au même titre que vous évaluez l'impact d'une formation de 2 ans en apprentissage pour un jeune. Donc,
Est-ce que par exemple un TripAdvisor ou une fourchette de la formation, pour rester plus français, ça a du sens ou tu te dis c'est vraiment absurde, c'est pas du tout.
C'est absurde si on pense que ça répond à la question globale. En revanche, si c'est pris pour ce que c'est-à-dire une satisfaction à chaud sur des problématiques facilement identifiables, type accueil de la personne au sein de l'entreprise de formation, là, ça peut faire sens. Mais par contre, si on pense résoudre la question de la qualité, de l'impact des formations par des étoiles, on se trompe de sujet.
D'accord. Et ça amène peut-être à une réponse à la question de diversification et élargissement de prise en compte de l'écosystème. Chacun son rôle. Peut-être qu'il y a de nouveaux rôles qui émergent finalement.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a des acteurs qui sont spécialisés dans l'évaluation des formations. Donc, encore une fois, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. On a aussi beaucoup de certificateurs qui sont en train de rejoindre la FFP, qui sont des acteurs importants puisqu'ils reconnaissent la compétence de la personne, ce qui est très utile évidemment pour les CV des personnes tout simplement, et puis qui viennent aussi valoriser la formation qui a été proposée.
On a parlé du réglementaire. Le deuxième gros chantier, c'est quand même le numérique.
Ouais.
Comment est-ce que la FFP se positionne sur la digitalisation de l'offre?
Ouais, écoutez, déjà, évidemment, le digital et le numérique, ce n'est qu'un moyen. C'est évidemment pas la finalité. Une fois qu'on a dit ça, c'est absolument incontournable. C'est-à-dire qu'un acteur de notre secteur qui ne se pose pas la question de la digitalisation, à la fois de sa structure et puis de ses services, c'est problématique. C'est-à-dire qu'il faut absolument s'emparer des opportunités offertes par le numérique, savoir comprendre ces codes, comprendre dans quelle mesure ils peuvent être des gains de temps, d'énergie ou de satisfaction des personnes formées, mais bien sûr comment on les intègre ensuite dans une ingénierie pédagogique, dans un service qui est approprié aux attentes de la personne formée et qui passe nécessairement par quelque chose de multimodal, c'est-à-dire qui intègre des éléments en présentiel comme en distanciel. Donc,
vous avez des ateliers, des espaces de réflexion, de veille pour
ouais.
Nourrir les adhérents?
Alors, ça irrigue de manière quotidienne, si vous voulez, les travaux de la FFP, puisque tous les sujets sont impactés. On a une commission innovation qui accueille très régulièrement des solutions qui proposent des mécanismes de digitalisation. On a le fameux projet dont je vous parlais tout à l'heure qui accompagne les dirigeants du secteur dans leur transformation de manière très opérationnelle avec encore une fois des aides financières et des ateliers très pratico-pratiques. On a également le Skillfest dont on va pouvoir reparler, qui est un événement où on se pose ce genre de questions entre pairs. On essaie de trouver aussi des trucs et astuces parce que l'enjeu du digital aussi parfois c'est tout simplement où est-ce que je vais investir dans un contexte où encore une fois les entreprises de formation et les acteurs doivent quand même absorber tous les éléments liés à la réforme. Donc en ce moment évidemment le temps, l'argent, il faut bien le mettre dans des endroits qui sont importants et donc la question de l'investissement dans le digital, il faut qu'elle soit prise de la bonne manière.
Comment tu conseillerais un organisme de formation qui veut se digitaliser? Qui n'a pas encore démarré, tu dirais de démarrer par quoi? Sachant que ce sont plutôt les classes virtuelles qui ont plutôt la cote en termes d'usage aujourd'hui. Mais
Je le conseillerais de commencer par le papier.
Très bien. Très bien.
Et de lire l'étude qu'on a produite avec Faber Novel, qui balaye l'ensemble de ces sujets et qui pose la question d'un point de vue du modèle économique et de la façon dont ça irrigue l'organisation avant même l'offre de formation. Ça, c'est le premier point. Donc, j'invite toutes les personnes à en prendre connaissance. Vous pouvez aller sur le site de la FFP.
Concrètement, si on donnait un axe ou deux pour dire par quoi il doit démarrer, alors bien sûr, après, il faut développer et lire l'étude, mais ça serait quoi? C'est quelqu'un qui veut se lancer, tu le conseillerais quoi? Une fois qu'il a lu.
En fait, le point de départ, et c'est pareil dans tous les secteurs qui sont impactés par le digital, le bon point de départ, c'est quelles sont les attentes. Quelle est l'évolution des attentes, en l'occurrence des apprenants, et quelle est l'évolution des comportements d'usage. Et donc, il faut partir de ce postulat-là. Donc, ça dépend de la typologie de client que tu as. Les outils digitaux, ils vont devoir s'adapter à l'évolution des comportements, des attentes et des usages de ces personnes-là. Donner un MOOC à des personnes qui n'ont pas forcément ni la motivation, ni la vision de leur projet professionnel ou une perspective professionnelle déjà ancrée, au bout de 2 heures, il va jamais revenir dans le MOOC. Ça, on le sait très bien. Donc, encore une fois, le digital, c'est vraiment un outil, mais il faut partir des vrais enjeux qui sont les besoins.
D'accord.
Alors, une fois qu'on a dit ça, les outils qui nous semblent intéressants, c'est tout ce qui tourne autour de l'adaptive learning, c'est-à-dire comment les formations peuvent s'adapter de manière individualisée au parcours d'apprentissage des personnes. Donc là, c'est l'utilisation des smart data de manière à pouvoir faire remonter et d'avoir un parcours qui devient du coup vraiment l'opposé du cours magistral où on délivre pendant 3 heures un cours sans savoir ce que moi je sais déjà, vers où je vais et finalement j'ai pas plus envie de faire la sieste.
ce qui est légitime parce que quand on fait la sieste, après on apprend mieux. Hein, donc les neurosciences nous montrent ça.
Voilà, hein. Mais il faut faire des micro-siestes.
Oui, il y a deux mots qui reviennent beaucoup en parlant de l'écosystème, de l'innovation, c'est modèle économique. Est-ce que vous voyez un modèle économique émergent? C'est difficile de dire un modèle économique, mais si c'est le cas, c'est quoi ses caractéristiques?
Ce qu'on sait, et là on le décrit vraiment de manière précise dans l'étude, c'est que le digital nécessite un certain nombre de codes qu'il faut adopter. Je pense par exemple à la question du marketing. Si votre offre n'est pas lisible, identifiée sur un champ donné, avec une capacité pour vos clients d'identifier bien votre proposition de valeur, là vous perdez des gens dans un univers qui est digitalisé. Voilà, c'est un exemple de cas très concret où le digital remet en cause un des aspects du modèle économique qui est le marketing et la commercialisation. Et on sait que c'est un des enjeux centraux aujourd'hui de notre secteur, qu'on se pose aussi au niveau de la branche des organismes de formation avec les partenaires sociaux, c'est la question des compétences dans le commercial, simplement.
D'accord.
Et notamment lié au digital. Tu trouves que les organismes de formation sont en phase de découverte, d'évangélisation, ils reçoivent de l'information ou ils sont à certaines maturités culturelles, numériques?
La transformation, elle est en cours. Elle est vraiment en cours. On le voit dans les études qu'on mène encore une fois au niveau de la branche ou au niveau de la FFP. Nous, maintenant, on a quasiment la totalité des adhérents qui proposent une offre en blended learning, avec des parcours multimodaux. On a vu dans le panorama de la branche des organismes de formation que tous les dirigeants se posent ces questions-là.
Alors, comment tu expliques aujourd'hui qu'il n'y ait pas, par exemple, de Uber de la formation, de Netflix de la formation? Donc tous ces nouveaux modèles qui sont intéressants, qui sont scalables, qui pourraient faire un rayonnement de la France de par le monde. Comment tu expliques qu'il n'y ait pas cette émergence auprès du canal historique?
Alors ça dépend ce qu'on entend par dans l'ubérisation, c'est-à-dire que si c'est une plateforme qui met en compte, qui intermédie des experts avec la demande, je suis pas sûr que en tout cas ça ne répondra qu'à une partie de la demande si ça se développe. Pourquoi? Parce que la proposition de valeur de notre secteur, elle est plus qu'un catalogue de formation. Et c'est ça l'enjeu majeur qui est en cours, c'est qu'elle est dans l'accompagnement, l'identification des besoins et l'évolution, soit la conduite du changement d'une organisation, soit l'évolution d'un projet professionnel, mais qui nécessite, c'est vraiment un produit de service si vous voulez, et ça il faut qu'on l'accompagne et avec une ingénierie qui est globale, qui n'est pas seulement des pushs de vidéos ou de petits contenus de formation. Alors ça, il y a des acteurs qui existent et qui vont se développer, mais qui ne seront qu'une brique de l'offre de services globale que doit apporter notre secteur. Parce que sinon, on se trompe d'enjeu.
Mais quand on voit, par exemple, des entreprises comme YouKnow qui ont insisté sur les SPOC, donc un produit qui est numérique et qui est scalable, ce qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que ça leur permet de sortir un peu des frontières. Mais est-ce que tu trouves qu'on est dans la course? Qu'on est largué par rapport à d'autres pays, on peut penser aux États-Unis qui ont un peu d'avance, ou est-ce qu'on a encore une chance, quoi?
Bah alors, Yuno, typiquement, c'est des adhérents à la fédération. Donc, là encore, la réponse, le constat, c'est qu'on n'est pas les premiers de la classe, clairement. Mais il faut aussi peut-être rappeler que ce n'est qu'en 2015 que le cadre légal français a reconnu la formation en distance. Donc, ça n'a pas forcément facilité les choses. Et la deuxième partie de la réponse, c'est voilà, est-ce qu'on est en capacité, encore une fois, de constituer cette filière qui fait travailler ensemble tous les acteurs, chacun avec sa valeur ajoutée, de manière à pouvoir aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin ensemble.
Donc t'es serein.
Bien sûr, optimiste. Non, vraiment, je suis très. Il y a des enjeux extrêmement importants déjà du point de vue de la demande. On sait que 80% des dirigeants de PME nous disent qu'ils n'arrivent pas à se développer faute de compétences. On sait que la problématique des pénuries de compétences maintenant elle traverse l'ensemble des territoires. Donc les enjeux ils sont là maintenant, c'est un enjeu qui est important et qui est porteur d'espoir aussi pour la filière, c'est comment on travaille ensemble.
Puisqu'on parle de la filière, peut-être que si tu le désires, tu pourrais parler du partenariat avec EdTech France.
Oui.
Est-ce qu'il s'agit de concurrents, de gens qui voilà, non, ou à quoi ils servent?
Typiquement, c'est vraiment cette volonté d'ouverture d'écosystème et de partenariat dans laquelle on s'inscrit et dans laquelle EdTech France s'inscrit également, sachant que beaucoup d'adhérents à EdTech France sont aussi adhérents à FFP, c'est pas forcément les mêmes services, mais peu importe, c'est comment nos organisations travaillent ensemble pour, encore une fois, irriguer les bonnes pratiques, les bonnes solutions qui font sens. Et donc, un partenariat avec EdTech France, ça nous permet aussi de faire venir des startups qui innovent avec des solutions dont on a parlé, par exemple sur l'immersive learning, l'adaptive learning, de les faire travailler aussi avec d'autres acteurs du secteur, de trouver les bonnes pistes, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ensemble de développer des offres en partenariat. Et ça, c'est pour ça que des partenariats avec des gens comme EdTech France nous semblent extrêmement importants. Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'on ne se restreigne pas non plus à Paris. L'enjeu, il est aussi dans l'ensemble des régions françaises. Donc, on est en train de travailler avec Rémi Chal, que tu as reçu, je crois, ou que vous avez reçu.
Et avec qui on est en partenariat.
Voilà, comment on travaille en région pour irriguer des communautés et des écosystèmes de manière à ce que tout le monde puisse évoluer dans le même sens et dans le bon sens.
Et Klaxoon, qui appartient au Next 40, donc qui est une des pépites potentielles, et de Rennes. Donc, effectivement, c'est bien là.
Oui, complètement. Ah oui, il y a un écosystème breton et rennais qui est extrêmement important. Ouais.
Comment t'expliques que dans l'écosystème, il n'y ait pas plus d'innovation? Est-ce que ça veut dire que il n'y a pas assez de start-up, il n'y a pas assez d'accélérateurs, il n'y a pas assez d'argent sur les techs en France, ou il n'y a pas d'idées?
Alors, je pense qu'on sous-estime les pépites et les success stories de notre secteur. Et c'est un des constats qu'on fait et sur lequel nous, on veut agir. Et de plus en plus, on va mettre en valeur ce que font nos adhérents parce qu'on pense qu'il ne se passe pas toujours des choses. Mais en réalité, les réussites, alors qu'elles soient digitales ou pas, hein, mais avec des success stories, on en a tous les jours qui nous remontent de la part de nos adhérents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les explications du fait qu'on ne soit pas les premiers de la classe, encore une fois, le système français a été, il faut le dire, sclérosant. Donc ça, il faut qu'on se le dise. Et après, je suis assez d'accord, il y a un enjeu de capitalisation et d'investissement dans notre secteur. On voit que des levées de fonds commencent quand même à apparaître. On sait qu'il y a des investisseurs qui s'intéressent à notre sujet, qui sont notamment présents via l'enseignement supérieur, les grandes écoles, mais qui arrivent sur notre secteur. Donc là, nous, au secteur, de prouver qu'il y a aussi une rentabilité, une capacité d'avoir un retour sur investissement de ces financements.
Donc nous, ce qu'on peut faire avec la FEN du côté des 10 000 responsables de formation qui sont membres, c'est le fait de dire que si vous avez des pépites, c'est de pouvoir les mettre en lumière de façon à ce que les responsables qui sont les acheteurs, d'abord les connaissent, ce qui aujourd'hui est un grand gap, et ensuite apprennent à travailler avec des petites structures.
Eh ben alors je propose à ces 10 000 personnes de venir les 1er et 2 octobre 2020 au Skillfest à l'espace Klaxoon à Malakoff où nous traiterons de ces enjeux-là et nous réfléchirons à la manière dont les compétences sont au cœur finalement de l'ensemble des grandes transformations actuelles, que ce soit la transformation digitale, transformation démographique, transition verte, comment les compétences peuvent être des leviers pour cela, dans des logiques d'insertion des parcours des personnes, mais aussi d'attractivité des territoires, et donc de mettre en valeur l'ensemble des success stories, des témoignages de bonnes pratiques, pour que, encore une fois, l'ensemble des acteurs puissent les irriguer. Donc, bienvenue, le 1er et 2 octobre, à l'ensemble de ces personnes.
On relaiera ça sur les newsletters. Par contre, effectivement, est-ce qu'il y aura des vidéos pour ceux qui ne peuvent pas venir sur Paris ?
Oui, on est en train de réfléchir à un format adapté justement pour toutes les capsules de témoignages et de mise en valeur de nos acteurs.
Vidéo ou audio, bien sûr, hein, forcément.
Voilà, exactement.
Skillfest, ça marche depuis tout à l'heure, c'est annuel, c'est nouveau ?
Alors, on l'a lancé l'année dernière.
D'accord.
Et ça, c'est encore une fois dans notre volonté de déployer cette plateforme autour des acteurs de la compétence, d'avoir aussi une autre approche de nos sujets qui sont parfois des sujets, on va dire, arides et techniques, autour de dispositifs réglementaires, et de poser finalement les questions d'un autre point de vue, c'est comment la compétence peut accompagner les transitions, comment peut-être les formations en management pourraient intégrer des logiques d'éco-gestes en entreprise. Encore une fois, la compétence est un levier pour permettre aussi à chaque organisation et à chaque personne de trouver sa place dans une société qui évolue extrêmement vite. Et derrière, donc ça, c'est les réflexions de fond, et derrière, d'avoir des outils très concrets auprès des acteurs, avec des ateliers très pratico-pratiques pour déployer des services adaptés.
Bien sûr, parce qu'il existe à la fois des outils très pratico-pratiques. On peut penser au marketing d'automation, où on peut automatiser beaucoup de choses dans les modèles économiques. Donc, même des gens tout seuls peuvent avoir des modèles qui sont internationaux. Donc, ça, c'est passionnant. Simplement, ils ne les connaissent pas. Donc, il faut bien qu'il y ait des corps intermédiaires qui jouent leur rôle. Et la FFP fait un travail intéressant là-dessus. Mais c'est quelque chose qui se construit. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu notre histoire où pendant longtemps, les accords de branche, on a créé une harmonisation, on a créé des moyennes sur des contenus, on n'a pas appris aux organismes de formation à se positionner marketingment parlant, et d'un seul coup, on leur dit, maintenant, différenciez-vous, et eux, des gens qui font du management, qui est quand même le plus gros secteur, dans ces cas, ils disent, moi, je fais management niveau 1, quoi. C'est modeste comme différenciation.
Peut-être une autre façon de reprendre ce que tu évoques, c'est un constat effectivement que l'offre et la demande ne se parlent pas assez. C'est peut-être une autre façon d'évoquer ce sujet-là. Et comment on trouve des meilleures passerelles pour que les secteurs économiques, les entreprises, les organisations ou même les territoires parlent mieux avec les acteurs de la compétence qui finalement sont en capacité aussi de co-construire des choses, sont beaucoup plus agiles qu'on ne le croit, puisque ce sont des entreprises de service, donc ont une capacité d'agilité et de réactivité qui est très forte. Et donc là aussi, on se dit que c'est la responsabilité d'une organisation comme la nôtre de créer des passerelles avec des secteurs économiques constitués. Pourquoi on ne travaille pas avec la sécurité, qui ont des enjeux hyper importants d'upskilling des salariés, avec le tourisme. Là, on travaille sur les JO 2024. L'industrie évidemment, enfin bref, l'ensemble des secteurs qui se posent ces questions-là, et finalement comment le marché, hein, tout simplement des acteurs de la compétence, peut y répondre de manière adéquate.
Vas-y Stéphane.
Alors peut-être justement, puisqu'on parlait du marché, on élargit à l'international. On voit qu'il y a deux pôles qui sont importants, qui se dégagent. Ouais. C'est le pôle américain et le pôle chinois. Ils ont des licornes, donc des structures importantes, évaluées à plus d'un milliard de dollars en général. Donc, ça veut dire qu'en Chine, il y en a 13, je crois, de mémoire. Donc, ça veut dire qu'en France, on n'est pas prêt d'en avoir. Alors, on peut espérer que Klaxoon, peut-être Open Classroom, vu les levées de fonds qu'ils ont, réussissent. Mais ça veut dire que, est-ce que finalement, notre destin, c'est pas d'être mangé par eux?
Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a d'autres acteurs français qui sont présents à l'international. Nous, on a un quart des adhérents qui sont présents à l'international. Donc, c'est plus la réalité. Elle est plus nuancée que celle-ci. Premièrement. Ensuite, effectivement, il y a des pays qui ont une force de frappe. Tu les évoquais, qui est colossale. Après, c'est à chacun de tirer son épingle du jeu, hein, c'est la joie du commerce international. Et donc là, encore une fois, l'enjeu, c'est comment on structure une filière d'excellence française avec une marque française, une reconnaissance française, qui puisse être aussi présente dans les grands appels d'offres européens ou à l'international. Et donc là, il y a une logique de consortium, un peu d'équipe France à trouver. Non seulement parce que ça permet évidemment à des acteurs français de se positionner, mais aussi parce qu'on a un enjeu de soft power au travers des enjeux de l'éducation et de la formation qui sont évidents, c'est-à-dire que on ne peut pas être absent de la façon dont on forme tout au long de la vie les personnes. C'est un enjeu trop important pour que la France et l'Europe soient absentes.
Si on prend par exemple des sujets comme la blockchain, où la France essaie d'être terre de blockchain, hein, c'est pour ça que le ministre de l'économie en a choisi comme axe, donc BPI France finance énormément de projets. Aujourd'hui, dans les organismes de formation, quelle place la blockchain a? On pourrait parler de l'IoT, mais c'est un peu. Est-ce qu'il n'y a pas une frilosité des acteurs?
Mais la blockchain, à mon avis, le sujet elle reste totalement marginal dans notre secteur aujourd'hui. Hein. Il y a l'enjeu de la certification éventuellement qui peut être portée par la blockchain qui permet d'avoir une assurance, un tiers indépendant qui assure la certification. Mais plus largement, la question derrière, c'est aussi quelle est la volonté aussi politique et stratégique de la France de porter cette filière-là. Là, on a le pacte productif qui arrive sur les bancs de l'Assemblée nationale dans les prochains mois. L'enjeu, c'est d'arriver au plein emploi en 2025 et de répondre à la pénurie des compétences des différents secteurs. Il nous semble évident, et c'est, je profite de votre plateforme pour en parler, mais on en parlera dès qu'on le pourra. Il nous semble évident que dans le pacte productif, il faut qu'il y ait des choses pour faciliter la constitution de cette filière. Il y a des filières, la filière de l'automobile ou d'autres filières qui ont des comités stratégiques ou des réflexions avec Bercy sur la façon dont ils peuvent au mieux être présents dans la constitution d'une filière solide, y compris présent à l'international. Et il faut aussi que la filière des acteurs de la compétence soit perçue par l'ensemble de la classe politique comme une filière figure de proue de la France et de sa capacité de transformation et d'action sur les grands sujets du moment.
Quels sont les leviers, à votre avis, pour arriver à cet objectif ou ce rêve, si j'ose dire? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux acteurs? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais aussi par rapport aux institutions publiques pour justement faire démarrer tout ça.
Où est-ce que c'est au privé? Parce qu'effectivement, on parle beaucoup du public, mais est-ce que finalement, comme les GAFAM, sont pas publics?
Oui. Encore une fois, je reviens à mon sujet, mais nous, le meilleur moyen d'avancer, c'est que les acteurs se parlent entre eux. C'est-à-dire que c'est la première étape, c'est qu'on crée cette plateforme où les acteurs se connaissent mieux, développent des partenariats, et chacun apporte sa valeur ajoutée pour avoir une offre qui soit à la hauteur de ces enjeux-là. Ensuite, ce qu'on attend, nous, c'est que le cadre légal, évidemment, garantisse le professionnalisme des acteurs. Qu'il facilite et simplifie la vie des acteurs de la formation. Et là, on a encore du chemin dans la simplification de notre secteur. Et puis, accompagne avec des effets de levier sa transformation. Donc, le projet PIA qu'on porte, c'est aussi un premier élément de réponse, puisque c'est en partie de l'argent public. C'est un cofinancement public-privé. Et donc là, l'État joue son rôle de faire un effet de levier pour démultiplier des actions qui peuvent ensuite irriguer l'ensemble du secteur.
Est-ce que justement dans cet effet de levier, la francophonie peut avoir une place particulière?
Oui, il y a un enjeu hyper important par rapport à la francophonie. Donc nous, on a des acteurs qui sont évidemment présents dans ces enjeux-là. On sait que le Canada, ils sont plutôt très bons sur nos sujets. On sait qu'au niveau de l'Afrique, il y a des enjeux énormes de besoins en compétences et avec une vraie attente. Donc on a effectivement, c'est un axe de travail qui est essentiel, encore une fois, à la fois pour ces pays-là, pour nos acteurs, mais pour la capacité d'influence de notre pays.
un organisme de formation, par exemple franco-français, qui aimerait partir à la conquête de l'Afrique, enfin, ça paraît un peu ambitieux, mais voilà. Est-ce que vous l'aidez? Est-ce que, et comment vous l'aidez? Si vous l'aidez, d'ailleurs.
Alors, on y travaille justement avec Business France. Donc, je l'invite à nous rejoindre et à participer à ces travaux. Très concrètement, on réfléchit à des business expeditions. On a en réflexion le Maroc, qui nous semble être une porte d'entrée intéressante justement dans les sujets que nous évoquions. Et puis, encore une fois, on cherche à accroître la présence de la France au niveau de l'Europe, et notamment au niveau des acteurs institutionnels européens. On constate, et mea culpa, hein, que la France est assez peu présente dans les instances européennes sur les sujets formation et éducation. Et donc, il faut absolument qu'on y remédie parce que la voix de la France doit porter sur ces sujets majeurs.
Donc, si je retiens bien, deux éléments importants peut-être à voir dans l'avenir sur le plan institution publique, porter l'image de marque ou déjà en créer une et la porter dans toutes les instances, tous les marchés sur l'international, mais aussi le développement des alliances, des collaborations entre les acteurs du privé. Est-ce que finalement, ces collaborations, ces alliances que vous citez comme éléments clés, ça ne va pas faire tendre, on ne revient pas à la question de la taille, on ne retrouvera pas que des gros, au final, de grands groupes qui vont
J'en suis pas persuadé, justement. C'est là où une fédération comme nous peut être utile. On a dans les entreprises présentes à l'international que je vais vous citer, on a beaucoup de entreprises de petite taille qui ont une capacité d'être très agile et d'être présent à l'international assez facilement, enfin facilement, toute proportion gardée. Donc encore une fois, c'est pas tant la taille, c'est qu'est-ce que j'apporte à ce consortium, à ce partenariat. Et là, on pense que tout le monde peut apporter sa brique, surtout si on prend le sujet largement, comme on essaie de le prendre en ce moment, autour du développement de la compétence.
Complètement. Et c'est tout l'intérêt d'un écosystème où quand on voit, par exemple, la French Tech, qui au départ n'avait pas une réputation internationale, à force d'aller au CES et d'investir le CES par des instances publiques, donc proposer des passerelles pour des toutes petites structures, leur apprendre à pitcher avec des Américains qui ont une autre culture. Et donc, c'est ce type de passerelles qui sont particulièrement riches pour sortir un peu de notre hexagone.
Complètement. Et donc là, on invite tous ceux qui souhaitent à nous rejoindre pour avancer dans ce sens.
Très, très bien. Alors, si on terminait, puisqu'on arrive vers la fin, on s'était proposé de terminer sur les mises en perspective. Si on se dit la formation d'ici 10-20 ans, c'est quoi? Quels sont les grands chantiers qui sont devant nous?
Le chantier principal, je pense que c'est celui que nous évoquions tout à l'heure, c'est la capacité de notre secteur à prouver, à démontrer son impact et son efficacité. Donc, à mon avis, c'est le chantier majeur aujourd'hui et dans les prochains mois et les prochaines années. Parce que l'acteur de formation qui est vendeur de catalogue de formation, ce n'est plus le sens de notre secteur. Si ça l'a été un jour. Aujourd'hui, les acteurs de la compétence, c'est beaucoup plus que ça. C'est des parcours de développement de la compétence avec une réflexion, encore une fois, en amont, pendant et en aval. Et la question de l'impact et de l'efficacité, elle est vitale. Elle est vitale pour notre secteur et il faut absolument qu'on se la pose. Alors, chacun avec ses outils, avec son angle et en fonction des besoins. Mais ça me semble être l'enjeu central des prochaines années.
Donc, si je reformule, ça serait la data, avec toute la big data, toutes ces problématiques qu'on a.
La data, c'est un outil pour individualiser et faire des parcours sur mesure. Donc, effectivement, c'est extrêmement important et ça peut être extrêmement précieux dans cette recherche de l'efficacité et de l'efficience même, c'est-à-dire combien de temps, d'énergie, d'argent je mets et pour quel résultat. Et ça, c'est ce qui doit irriguer les réflexions de notre secteur et c'est ce qui les irrigue d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a hâte aussi que les mises en œuvre de la réforme et les complexités qui sont liées à ces périodes de transition se terminent et se mettent enfin en place pour qu'on puisse se poser ce type de questions.
Merci beaucoup pour toutes ces
Merci
informations.
À vous.
En tout cas, c'était très éclairant. Merci Manal. pour toutes les questions. Et si vous avez bien sûr des questions particulières, n'hésitez pas à les mettre sur les commentaires du post audio. Et dans ces cas-là, on transmettra de façon à ce qu'on puisse avoir toutes les réponses. Comme on l'avait promis au début, on ne fait pas de survente. Merci beaucoup. Au revoir à tous.
Merci, à bientôt.
Merci, au revoir.